Chers auditeurs, bonjour. Vous êtes toujours à l'écoute de Fréquence Bonheur. Merci de nous avoir rejoints. Pierre Lassalle et Marie-Hélène en votre compagnie pour notre nouvelle émission Pouvoir illimité. Ce n'est pas sans avoir savouré le chemin parcouru avec le livre de Ken Case, Bonjour Bonheur, que nous vous proposons aujourd'hui un nouveau cycle de croissance. Avant d'aller plus en avant dans cette émission, je voudrais remercier tout particulièrement notre nouvelle présentatrice et lectrice. Et oui, l'équipe de Fréquence Bonheur s'agrandit. C'est vrai que le bonheur, c'est contagieux. Marie-Hélène, bonjour.
Bonjour Pierre.
Bien, chers auditeurs, sachez que nous nous réjouissons par avance de partager avec vous les lignes qui vont suivre. Nous espérons que, tout comme nous, vous êtes parfaitement bien calés dans votre fauteuil favori. Nous nous retrouvons tout de suite après la plage musicale. Pouvoir illimité. C'est traduit de l'américain par Marie-Hélène Dumas, c'est écrit par Anthony Robbins et c'est aux éditions Robert Laffont.
Que vous possédiez, le pouvoir d'aimer est à tous ceux qui vous aident à en partager la magie. Plus que tout, pour moi, à Jerek, Joshua, Jolie, Tyler, Becky et maman.
Préface.
Anthony Robbins m'a demandé d'écrire la préface de Pouvoir illimité, j'en ai été ravie pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je trouve que Tony est un incroyable jeune homme. Notre première rencontre s'est produite en janvier 85, alors que je me trouvais à Palm Springs, pour participer à un tournoi de golf. Je venais de passer une heure à rire et plaisanter au Rancho Las Palmas Marriott et était parti dîner avec Case Punch, un ami australien, lorsque nous nous sommes passés devant un panneau annonçant le séminaire de marche sur le feu de Tony Robbins.
« Libérez le pouvoir qui est en vous »,
lisait-on sur la pancarte. J'avais entendu parler de Tony, aussi ma curiosité fut-elle piquée au vif. Comme Case et moi avions déjà bu un verre, nous avons estimé que nous ne pourrions pas marcher sur les braises. Mais nous avons décidé d'assister quand même à ce séminaire.
Pendant les 4h30 qui ont suivi, j'ai vu Tony hypnotiser une vaste assemblée composée de chefs d'entreprise, de femmes au foyer, de médecins, d'avocats, etc. Quand je dis « hypnotiser », je ne parle pas d'un quelconque phénomène de magie noire. Grâce à son charisme, à son charme et à sa profonde connaissance du comportement humain, Tony tenait toute la salle en haleine. En 21 ans d'activité, jamais je n'avais assisté à un séminaire aussi passionnant. À la fin, tous ceux qui y participaient traversèrent pieds nus un lit de charbons ardents de 5 mètres de long qui se consumait depuis le début de la soirée. Et personne ne se brûla. C'était un spectacle étonnant et pour ceux qui l'avaient vécu, une expérience exaltante.
Tony se sert de la marche sur le feu comme d'un substitut. Il n'enseigne pas une pratique mystique, il fournit plutôt une série d'outils permettant de vous mettre en état d'agir, quelle que soit la peur qui vous en empêcherait autrement. En vous donnant les moyens de faire tout ce qui est nécessaire pour réussir, Tony Robbins met à votre portée un véritable pouvoir. Voilà pourquoi j'éprouve tant de respect et d'admiration pour lui.
Et le plaisir que j'ai à présenter ce livre tient au fait qu'il va montrer à chacun la profondeur et l'ampleur de la pensée de Robbins. Car Tony n'est pas seulement un orateur convaincant. Bien qu'il n'ait que 25 ans, on peut déjà le classer parmi les plus grands spécialistes de la psychologie de la motivation et de l'accomplissement. Et je crois que « Pouvoir illimité » peut devenir le texte définitif du mouvement du potentiel humain. Les vues de Tony sur la médecine, le stress, la détermination d'objectifs, la visualisation, etc. sont tout à fait percutantes et constituent un savoir indispensable pour quiconque aspire à son accomplissement individuel. Mon vœu le plus cher est que vous retiriez autant de ce livre que j'en ai retiré moi-même. Bien qu'il soit assez long, je souhaite que vous ayez la volonté de le lire jusqu'au bout afin d'apprendre à vous servir de la pensée de Tony pour libérer la magie qui est en vous. Kenneth Blanchard, co-auteur de The One Minute Manager, chef d'entreprise en une minute. Introduction.
J'ai eu toute ma vie des difficultés à parler en public, même quand je faisais du cinéma. Juste avant de jouer, il m'arrivait d'éprouver un malaise physique. Aussi, peut-on imaginer la fébrilité que j'ai ressentie quand j'ai appris qu'Anthony Robbins, l'homme qui transforme la peur en pouvoir, possédait le moyen de me guérir.
Si j'étais très impatient de rencontrer Robbins, je ne pouvais malgré tout réprimer quelques doutes. J'avais déjà entendu parler de la programmation neurolinguistique et des autres méthodes dans lesquelles Tony est un expert reconnu. Mais j'avais aussi passé des heures innombrables et dépensé des milliers de dollars pour me faire aider par ce genre de spécialiste.
Tous ceux à qui je m'étais adressé m'avaient dit que, comme ma peur s'était peu à peu constituée au fil des années, je ne pouvais guère espérer un traitement rapide. Ils prévoyaient de me revoir toutes les semaines pour travailler sans relâche sur mon problème.
Quand j'ai rencontré Tony, j'ai tout d'abord été frappé par sa taille. Je rencontre très rarement des gens plus grands que moi. Il devait mesurer 1m98 et peser près de 115 kg. Et il était si jeune, si agréable. Nous nous sommes assis, et quand il s'est mis à me poser des questions sur ce dont je souffrais, je me suis senti extrêmement mal à l'aise.
Puis, il m'a demandé ce que je voulais et comment je voulais changer. J'ai alors eu l'impression que ma phobie se dressait pour se défendre, pour empêcher que ne se produise ce qui pouvait se produire. Mais j'ai commencé à écouter ce que Tony disait, je me suis laissé bercer par le rythme apaisant de sa voix.
J'ai alors revécu mes impressions de panique à l'idée de parler en public. Et soudain, je les ai remplacées par de nouvelles impressions faites de force et de confiance. Tony m'a fait revenir en esprit à un moment où j'étais sur une estrade en train de prononcer un discours réussi. Pendant que je parlais mentalement, il me donnait des points d'ancrage. Les points d'ancrage sont des choses auxquelles je peux faire appel pour renforcer mon audace et ma confiance quand je parle. Tout cela vous sera expliqué dans le livre.
Pendant les trois quarts d'heure que dura notre entretien, je suis restée les yeux fermés. De temps à autre, Tony me touchait les genoux et les mains pour me fournir des points d'ancrage physiques. Quand cela a été fini, je me suis mis debout. Je ne m'étais jamais sentie aussi détendue, aussi calme et paisible. Je n'éprouvais aucune sensation de faiblesse. J'avais désormais suffisamment confiance en moi pour participer, comme on me l'avait demandé, à une émission de la télévision luxembourgeoise qui a une audience potentielle de 450 millions de personnes.
Si les méthodes de Tony produisent des résultats aussi extraordinaires sur les autres qu'elles en ont produit sur moi, des gens du monde entier vont pouvoir en profiter. Il y a des individus qui sont alités, l'esprit habité par l'idée de la mort. Leurs médecins leur ont dit qu'ils avaient un cancer, et ils en sont tellement bouleversés que leur corps en est envahi par le stress. Or, si la phobie dont je souffrais depuis toujours a pu être éliminée en une heure, les méthodes de Tony devraient aussi servir à ceux qui souffrent de toutes sortes de maux psychologiques ou physiques. Eux aussi peuvent être soulagés de leur peur, de leur tension et de leur angoisse. Je pense que nous n'avons plus le droit de perdre de temps.
Pourquoi auriez-vous peur de l'eau, de l'altitude, du public, des serpents, des patrons, de l'échec ou de la mort ?
Je suis libre désormais, et grâce à ce livre, vous pouvez le devenir vous aussi. Mais pouvoir illimité va bien au-delà de l'élimination de la peur, car il apprend au lecteur ce qui déclenche tout comportement humain. En assimilant le contenu de cet ouvrage, vous acquérez la maîtrise totale de votre esprit et de votre corps, donc de votre vie. Jason Winter, auteur de « Comment tuer le cancer ».
La réussite. Rire souvent et beaucoup, mériter le respect des gens intelligents et l'affection des enfants, gagner l'estime des critiques honnêtes et endurer les trahisons de ceux qui ne sont pas de vrais amis, apprécier la beauté, trouver ce qu'il y a de mieux dans les autres, laisser derrière soi un monde un peu meilleur, par un bel enfant, un jardin fleuri ou une condition sociale moins dure, savoir qu'une vie seulement respirait plus facilement grâce à vous, voilà ce qu'est la réussite.
Première partie, apprendre l'excellence humaine.
Premier chapitre, la marchandise des rois.
Le grand but de la vie n'est pas le savoir, mais l'action. Thomas Huxley.
J'entendais parler de lui depuis plusieurs mois. On disait qu'il était jeune, riche, en bonne santé, heureux et qu'il avait réussi. Il fallait que je me rende compte par moi-même. Je l'examinais attentivement à la sortie du studio de télévision et au cours des semaines qui ont suivi, je me suis attachée à ses pas, le regardant prodiguer ses conseils à tous, qu'il s'agisse de chefs d'État ou de malades phobiques. Je l'ai vu participer à des débats avec des diététiciens, former des cadres supérieurs et travailler avec des sportifs et des enfants handicapés. Il paraissait incroyablement heureux et très amoureux de sa femme, qu'il accompagnait dans tous ses déplacements aux États-Unis et dans le reste du monde. Et quand le voyage fut terminé, ils reprirent l'avion pour San Diego, où ils comptaient passer quelques jours en famille dans leur château qui domine l'océan Pacifique.
Comment se faisait-il que ce gamin de 25 ans, tout juste bachelier, ait pu accomplir tant de choses en si peu de temps ?
Après tout, c'était un garçon qui, seulement 3 ans plus tôt, habitait encore une garçonnière de 40 mètres carrés où il faisait la vaisselle dans la baignoire.
Comment cet individu extrêmement malheureux, qui se trouvait trop gros, qui avait toujours eu beaucoup de difficultés à communiquer avec les autres et dont les perspectives n'étaient guère reluisantes, était-il devenu cet homme posé, plein de santé, capable d'établir des liens intenses avec autrui et dont les possibilités de réussite semblaient illimitées ?
Tout cela paraissait incroyable, d'autant plus que cet homme, c'était moi, son histoire et la mienne.
Je ne suis absolument pas en train de dire que mon expérience constitue le seul type de réussite qui existe. Il est bien évident que nous avons tous des idées et des rêves différents sur ce que nous voulons faire de notre vie. En outre, je suis bien conscient que les relations qu'on a, les lieux que l'on fréquente et les biens que l'on possède ne donnent pas la vraie mesure de la réussite personnelle. Pour moi, la réussite, c'est le processus par lequel on s'efforce de devenir plus. C'est la possibilité de se développer sur le plan affectif, social, spirituel, psychologique, intellectuel et matériel, tout en apportant quelque chose de positif aux autres. La route qui mène à la réussite est toujours en construction. C'est un parcours progressif, non un but final à atteindre.
L'idée où je veux en venir est simple. En appliquant les principes que vous allez découvrir dans ce livre, j'ai réussi à modifier non seulement ce que je pensais de moi-même, mais aussi ce que je faisais de ma vie, et les changements que j'ai opérés sont à la fois considérables et mesurables. L'objet de ce livre est de partager avec vous ces découvertes qui ont changé toute mon existence. Je forme le vœu sincère que les techniques, la stratégie, le savoir-faire et la philosophie enseignées dans ces pages vous donneront autant de pouvoir qu'ils m'ont donné à moi. Le pouvoir de transformer magiquement notre vie en donnant corps aux rêves grandioses que nous abritons tous en nous et qu'il est temps de libérer.
Quand je considère la vitesse à laquelle j'ai réussi à transformer mes rêves en une réalité vécue, je ne puis m'empêcher d'éprouver un sentiment presque inconcevable de gratitude et d'effroi. Et je suis certainement loin d'être un cas unique. Le fait est que nous vivons à une époque où des tas de gens parviennent à réaliser des choses merveilleuses du jour au lendemain, à connaître des succès qui auraient été inimaginables aux époques antérieures.
Voyez le cas de Steve Jobs. C'était un gosse vêtu de blue jean, sans un sou en poche, qui a eu l'idée d'un ordinateur domestique et a créé une société figurant parmi les 500 premières d'Amérique, plus vite que quiconque avant lui dans le passé.
Voyez Ted Turner. Il s'est emparé d'un outil de communication qui venait à peine de voir le jour, la télévision par câble, et a créé un empire.
Voyez des gens du show business comme Steven Spielberg ou Bruce Springsteen, ou des hommes d'affaires comme Lee Iacocca ou Ross Perot.
Qu'ont-ils d'autre en commun qu'une réussite stupéfiante, prodigieuse?
Du pouvoir, tout simplement.
Mais quel pouvoir?
Car ce mot suscite des réactions affectives très diverses. Pour certaines personnes, le pouvoir a une connotation péjorative. Il y a des gens qui sont assoiffés de pouvoir, d'autres qui se sentent souillés par ce qu'ils considèrent comme quelque chose de vénal et de suspect.
Quelle quantité de pouvoir voulez-vous? À quelle quantité de pouvoir estimez-vous avoir droit? Qu'est-ce que le pouvoir signifie vraiment pour vous?
Je ne parle pas du pouvoir en termes de conquête ni d'une volonté personnelle qu'il faudrait imposer. Cette sorte de pouvoir dure rarement. Mais vous devez prendre conscience de ce que le pouvoir est une constante humaine.
Ou vous élaborez vos idées.
Ou quelqu'un les élabore à votre place.
Ou vous faites ce que vous avez envie de faire.
Ou vous exécutez les projets d'un autre.
Pour moi, le pouvoir ultime est la capacité d'obtenir les résultats qui vous tiennent à cœur et de contribuer au bien des autres par la même occasion. C'est la capacité de changer votre vie, d'élaborer vos idées, de faire en sorte que les circonstances vous soient favorables et non hostiles. Le vrai pouvoir se partage, il ne s'impose pas. Il permet de définir des besoins humains et de les satisfaire, vos besoins et ceux des êtres qui vous sont chers. Grâce à lui, vous dirigez votre royaume personnel, votre activité mentale et votre comportement de manière à obtenir les résultats précis que vous désirez.
Tout au long de l'histoire, le pouvoir qui s'exerce sur les autres humains a pris des formes différentes et contradictoires.
À l'origine, le pouvoir résultait simplement de la physiologie. Celui qui était le plus fort et le plus rapide possédait le pouvoir de diriger sa vie ainsi que la vie de ceux qui l'entouraient.
Avec le développement de la civilisation, le pouvoir s'est transmis par héritage. Le roi, qui s'entourait des symboles de son hégémonie, régnait avec une autorité incontestée. Les autres tiraient leur pouvoir de leur lien avec lui.
Puis, au début de l'ère industrielle, c'est le capital qui est devenu la source du pouvoir. Ceux qui y avaient accès dominaient le processus industriel. Tous ces éléments continuent à jouer un rôle.
Mieux vaut posséder du capital que n'en point posséder.
Mieux vaut avoir de la force physique que ne pas en avoir.
Aujourd'hui, toutefois, c'est le savoir spécialisé qui constitue une des plus grandes sources de pouvoir. Nous vivons à l'ère de l'information. nous ne sommes plus essentiellement dans une civilisation industrielle, mais dans une civilisation de la communication. Nous sommes à une époque où des idées, des conceptions et des courants nouveaux modifient le monde presque quotidiennement, qu'ils soient fondamentaux, comme de la physique quantique, ou triviaux, comme le hamburger le mieux vendu. S'il y a une chose qui caractérise le monde moderne, c'est le flux massif, presque inimaginable, d'informations et par conséquent de changements. Grâce aux livres, aux films, à la télévision et aux puces informatiques, cette information nous parvient sous la forme d'une avalanche de données à voir, à entendre et à sentir. Dans notre société, ceux qui possèdent l'information et les moyens de la communiquer disposent de ce dont le roi disposait, un pouvoir illimité. Comme a pu l'écrire John Galbraith,
l'argent était le combustible de la société industrielle. Mais dans la société d'information, le combustible, le pouvoir, c'est le savoir. On voit désormais apparaître une nouvelle structure de classe répartie entre ceux qui possèdent l'information et ceux qui doivent fonctionner à partir de l'ignorance. Cette nouvelle classe tient son pouvoir non pas de l'argent ni de la terre, mais du savoir.
C'est ainsi qu'aujourd'hui la clé du pouvoir est à la disposition de tous.
À l'époque médiévale, si l'on n'était pas roi, on risquait d'avoir beaucoup de mal à le devenir.
Au début de la révolution industrielle, si l'on ne possédait pas de capital, les chances d'en amasser étaient extrêmement minces.
Mais aujourd'hui, n'importe quel garnement en blue jean peut créer une société qui transformera le monde. Désormais, l'information est la marchandise des rois. Ceux qui ont accès à certaines formes de savoir spécialisés peuvent se transformer eux-mêmes et, dans une large mesure, transformer notre monde.
Cela nous amène à une question évidente. Il est certain qu'aux États-Unis, les différents savoirs spécialisés qui peuvent jouer sur la qualité de notre vie sont accessibles à n'importe qui. On les trouve dans toutes les librairies, tous les magasins de vidéos, toutes les bibliothèques. On peut les obtenir grâce à des conférences, des stages et des cours. Et qui n'a pas envie de réussir ?
La liste des best-sellers est pleine de recettes qui garantissent l'accomplissement individuel.
Chef d'entreprise en une minute, à la recherche de l'accomplissement, ce que vous n'apprendrez pas dans les grandes écoles de commerce, les méga-tendances, le tremplin vers l'infini.
Et je pourrais continuer. L'information est donc disponible. On se demande alors pourquoi certaines personnes obtiennent des résultats fabuleux alors que d'autres se contentent de végéter.
Pourquoi ne sommes-nous pas tous doués de pouvoir, heureux, riches, en bonne santé ? Pourquoi ne réussissons-nous pas tous dans la vie ?
La raison en est que, même à l'ère de l'information ne suffit pas. Si nous n'avions besoin que d'idées et de propositions constructives, nous aurions tous eu un poney quand nous étions enfants, et nous aurions tous à présent la vie dont nous avons toujours rêvé. L'action est ce qui crée toutes les grandes réussites. L'action est ce qui donne des résultats. Le savoir n'est qu'un potentiel jusqu'à ce qu'il tombe entre les mains de celui qui sait comment se mettre en condition de prendre des mesures efficaces. En fait, la définition littérale du mot « pouvoir » est
« capacité d'agir ».
Nous nous laissons piéger mentalement quand nous croyons que les gens doivent leur réussite à un don particulier. Car lorsque nous y regardons de plus près, nous nous apercevons que tous ceux qui connaissent un succès exceptionnel ont un trait commun.
Ils savent avant tout se mettre en état d'agir.
Ce don, n'importe lequel d'entre nous peut le développer. D'autres, après tout, en savaient autant que Steve Jobs sur l'informatique.
D'autres auraient pu prévoir, comme Ted Turner, le potentiel économique énorme du câble.
Mais Turner et Jobs ont su agir, et ce faisant, ils ont transformé le rapport qu'ont beaucoup d'entre nous avec le monde.
Ce que nous faisons dans la vie est déterminé par la façon dont nous communiquons avec nous-mêmes. Dans ce monde moderne, la qualité de la vie dépend de la qualité de notre communication. Nous produisons tous deux types de communication qui modèlent nos rapports à l'existence.
Tout d'abord, nous établissons des communications internes, les choses que nous imaginons et que nous ressentons à l'intérieur de nous-mêmes.
Ensuite, nous établissons des communications externes. Mots, intonations, expressions du visage, postures du corps et actions physiques par lesquelles nous communiquons avec le monde.
Toute communication que nous émettons est une action, une cause mise en mouvement. Et toutes les communications produisent un effet sur nous-mêmes et sur les autres.
La communication est un pouvoir. Ceux qui en maîtrisent l'emploi peuvent modifier la notion qu'ils ont du monde et la notion que le monde a d'eux. Tous les comportements, toutes les sensations s'enracinent dans une forme quelconque de communication. Ce sont ceux qui savent utiliser cet instrument de pouvoir qui joue sur les pensées, les sentiments et les actions des autres. Voyez les individus qui ont transformé le monde. John Kennedy, Thomas Jefferson, Martin Luther King, Franklin Roosevelt, Winston Churchill, le Mahatma Gandhi. Dans un registre plus sinistre, voyez Hitler. Ces personnages avaient en commun d'être des maîtres de la communication. Ils furent capables de formuler un projet, que ce soit d'envoyer des gens dans l'espace ou de créer un État fondé sur la haine, le Troisième Reich, et réussir à réunir un tel consensus autour de leur projet qu'ils influèrent sur la manière de penser et d'agir des masses. Grâce à leur pouvoir de communication, ils transformèrent le monde.
N'est-ce pas en fait cela aussi qui place un Spielberg, un Springsteen, un Yakoka, une Fonda ou un Reagan en marge des autres? Ne sont-ils pas passés maîtres dans le maniement de cet outil qu'est la communication?
Or, cet outil qui leur permet de mettre les masses en mouvement est aussi celui dont nous avons besoin pour nous pousser nous-mêmes à agir. Notre niveau de maîtrise de la communication avec le monde extérieur déterminera notre niveau de réussite avec les autres, sur le plan personnel, affectif, social et financier. Qui plus est, le niveau de réussite auquel vous accédez intérieurement, bonheur, joie, extase, amour ou n'importe quel autre de vos désirs, résulte directement de votre façon de communiquer avec vous-même. La manière dont vous vous sentez ne provient pas de ce qui se passe dans notre vie, elle n'est que l'interprétation que vous donnez de ce qui vous arrive. Certaines situations, c'est évident, conduisent plus facilement à une interprétation positive ou négative, mais il est important de se rappeler que nous pouvons contrôler le processus d'interprétation et agir du même coup sur ce que nous éprouvons et ce que nous faisons. L'exemple des gens qui réussissent nous montre toujours que la qualité de leur vie n'est pas déterminée par ce qui leur arrive, mais par ce qu'ils font en réaction à ce qui leur arrive.
Suivant la façon dont vous avez choisi de percevoir la vie, c'est vous qui décidez de vos réactions mentales et de vos actes. Rien n'a de sens en dehors du sens qu'on lui donne. Nous avons pour la plupart branché ce processus d'interprétation en mode automatique, mais nous pouvons toujours récupérer ce pouvoir et modifier immédiatement notre façon de vivre les choses.
Ce livre traite de mesures efficaces, ciblées, cohérentes, qui permettent, lorsqu'on les prend, d'obtenir des résultats époustouflants. Si je devais vous expliquer en trois mots de quoi traite ce livre, je dirais...
Donner des résultats.
Réfléchissez-y.
Est-ce vraiment cela qui vous intéresse? Désirez-vous changer ce que vous pensez de vous-même et du monde? Désirez-vous devenir un meilleur communicateur, mieux aimer les autres, apprendre plus vite, avoir une meilleure santé ou gagner plus d'argent?
Si c'est le cas, il vous est possible d'y arriver seul, et même d'aller beaucoup plus loin. Il vous suffit pour cela d'utiliser correctement le contenu de ce livre. Toutefois, avant d'obtenir de nouveaux résultats, vous devez d'abord prendre conscience que vous obtenez déjà des résultats. Ce ne sont peut-être pas ceux que vous souhaitez. La plupart d'entre nous rattachent l'essentiel de ce qui se produit dans leur esprit à des phénomènes incontrôlables. Mais à la vérité, on peut contrôler son activité mentale et son comportement à un point que vous n'avez jamais imaginé. Pourtant, quand vous êtes déprimé, c'est vous qui produisez cette mise en scène que vous appelez la dépression. Quand vous êtes en pleine forme, c'est aussi le fruit de votre création.
Il faut se rappeler que les états comme la dépression ne vous arrivent pas de l'extérieur. La dépression, ça ne s'attrape pas. C'est vous qui la créez, comme tout ce que vous produisez dans votre vie, au moyen d'actions physiques et mentales spécifiques. Pour être déprimé, il vous faut concevoir votre vie d'une manière déterminée. Vous devez vous dire des choses à vous-même, sur le ton de voix qui convient. Vous devez adopter une attitude corporelle et une manière de respirer particulière. Laisser tomber ses épaules et baisser légèrement les yeux aide par exemple énormément à se sentir déprimé. Et il en va de même si vous parlez avec un ton de voix triste et que vous imaginiez les pires scénarios possibles concernant l'avenir. Si vous bouleversez votre équilibre biochimique en vous nourrissant mal, en abusant de l'alcool ou en absorbant des drogues, vous faites baisser le taux de sucre de votre sang et garantissez potentiellement l'apparition de la dépression.
Tout ce que je cherche à montrer ici, c'est que la création d'une dépression réclame des efforts et requiert des mesures bien particulières. Cependant, certaines personnes créent cet état si souvent qu'il leur est facile de le reproduire. En fait, ils relient généralement ce schéma de communication interne à toutes sortes d'événements extérieurs. Certaines personnes en retirent tellement de gratifications secondaires, attention des autres, compassion, amour, etc., qu'ils finissent par faire de ce mode de communication leur façon normale de vivre. D'autres ont vécu dans cet état pendant si longtemps qu'ils s'y trouvent effectivement bien. Ils s'identifient. Cela n'empêche pas qu'il nous est possible de modifier nos actions mentales et physiques, et par conséquent nos sensations et nos comportements.